Europe Midi, Romain Desarbres.
12h30, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Prudence, 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 si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Var. Beaucoup de pluie est tombée ces dernières heures et ça devrait recommencer cet après-midi. On sera avec la sous-préfète des Bouches-du-Rhône dans un instant, avec Stéphane Burgat à Marseille, avec Frédéric Michel dans le Var. Point météo complet avec Anissa Haddadi qui vient de raccrocher avec Météo France. La justice britannique se penche à partir d'aujourd'hui sur la thèse du sous-marin qui aurait accroché et tiré vers le fond le Bugalette Braise faisant 5 morts en 2004. On sera avec Sandrine Prioul à Brest. Les abus sexuels dans l'église, c'est le calme avant la tempête pour l'église de France, avant la remise demain du rapport Sauvé, le rapport de Jean-Marc Sauvé qui a présidé cette commission indépendante sur les abus sexuels. On verra avec Virginie Riva ce que l'on sait déjà. Et puis Marseille qui pleure, Bernard Tapie, le moment le plus fort et le plus populaire de cette semaine d'hommage sera jeudi prochain avec la chapelle ardente au Vélodrome. Qu'est-ce qui est prévu exactement? Nos informations avec Jean-François Pérez avec nous dans le studio. Europe 1. Les écoles sont fermées, les parents ont été invités à récupérer leurs enfants dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. On ira dans le Var dans un instant. Tout d'abord, les Bouches-du-Rhône, avant d'être en direct avec la sous-préfète des Bouches-du-Rhône, Stéphane Burgat, en direct du Vieux-Port. Ce qui est fou, Stéphane, bonjour, vous êtes en direct avec nous. C'est que le niveau de l'eau du Vieux-Port est quasiment au niveau du quai.
Oui, des images assez impressionnantes, hein, même si ça n'a pas débordé à l'inverse de certains axes, hein, pas très loin, notamment à la Joliette, qui ont été complètement submergés, hein, tout simplement ce matin. Près d'une centaine d'interventions pour les marins-pompiers depuis cette nuit, pas de victimes, mais des dégâts matériels, éboulements, coulées de boue dans un quartier, une maison s'est même effondrée, mais heureusement en du propriétaire. Et puis ce petit moment de panique, hein, surtout ce matin pour les parents d'élèves, à l'image de François, des papas, des mamans qui ont dû faire demi-tour pour récupérer leurs enfants car les écoles ont toutes fermé leurs portes à midi.
Ce matin, comme il n'y avait pas de consigne, on les a donc amenés à l'école normalement. Et puis vers 9h, bon, l'école nous a rappelé pour venir les chercher.
En catastrophe un peu.
Voilà, c'est ça. Du fait du risque, donc vigilance rouge cet après-midi, pour pouvoir mettre à l'abri le maximum de personnes.
Panique ce matin.
Ça a été un petit peu la panique, oui.
Et Aix-Marseille Université qui suspend également tous ses cours et place son personnel en télétravail. La mairie de Marseille renvoie également tout son personnel non essentiel à la maison, selon l'adjoint Yannick Ouanessian.
Soit de rester chez eux, soit de regagner leur domicile pour ceux qui étaient venus travailler ce matin. Nous invitons d'ailleurs, à chaque fois que cela est possible, les personnes à en faire de même. C'était le cas pour évidemment les écoles et c'est le cas aussi pour ceux qui sont allés travailler ce matin. Il est préférable, dans la mesure du possible, de regagner son domicile avant l'épisode pluvieux qui va intervenir cet après-midi.
Puisque vous l'aurez compris, il faudra le moins de monde possible dehors cet après-midi dans les rues, sur les rails également, puisque la SNCF interrompt plusieurs lignes jusqu'à nouvel ordre entre Marseille et Aix, Toulon, Martigues, Avignon, Montpellier, ainsi que la ligne TER pour Nice.
Merci beaucoup Stéphane Burgat, en direct de Marseille. On est en direct avec la sous-préfète des Bouches-du-Rhône, Laurence Leverino. Bonjour Madame la sous-préfète, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, bonjour. D'avoir choisi Europe 1 et Europe Midi pour parler. Est-ce que vous pourriez déjà nous faire, s'il vous plaît, un tour des points les plus sensibles actuellement dans le département ?
Alors, merci de me donner la parole. Donc, je voulais quand même rappeler que l'alerte rouge est une alerte d'intensité absolument exceptionnelle, hein, donc qui nécessite beaucoup de mesures et de bons comportements à adopter. Cette alerte donc est intervenue par un bulletin météo de 6 heures ce matin qui nous a conduit à prendre un certain nombre de mesures. Nous attendons un phénomène évidemment pluvio-orageux très actif dans le milieu de l'après-midi, plutôt sur l'est du département, mais nous sommes en train avec Météo France d'affiner donc ce modèle. Simplement donc avec une accalmie par rapport à la nuit dernière où il est tombé énormément de pluie entre Aix-en-Provence et Marseille, jusqu'à 170 mm d'eau déjà observée. Donc un phénomène qui va se rajouter a déjà des pluies intenses dans la nuit. On a profité donc de cette matinée d'accalmie pour permettre de prendre toutes les mesures nécessaires, de manière surtout à éviter que le maximum de personnes se retrouvent en difficulté dans l'après-midi. Donc à cette heure, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons déjà beaucoup de communes qui ont activé des plans communaux de sauvegarde ou des cellules de veille, et je voudrais d'ailleurs à ce titre vraiment les remercier, puisque nous travaillons ensemble de concert depuis ce matin, de manière à éviter que l'ensemble des personnes se retrouvent en
difficulté
dans l'après-midi.
Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que c'est un plan communal de sauvegarde ?
Alors, Alors, c'est un plan qui doit être mis en place par les municipalités et qui, en cas d'intensité et de difficulté, donc chaque maire est en capacité de prendre un certain nombre de mesures dans sa commune. Le préfet, lui, a diffusé un certain nombre de comportements à tenir. Je rappelle surtout, et je parle notamment au niveau des écoles, qu'on a demandé effectivement aux parents ce matin de venir récupérer donc leurs enfants en lien avec les services de l'éducation nationale. Ça fait partie voilà, de ces mesures.
Bien sûr. Madame la sous-préfète, si je voulais vous résumer, je dirais que vous demandez à toute la population de rester chez elle aujourd'hui, cet après-midi.
Absolument. Je le répète, un épisode de vigilance rouge est l'épisode extrême de vigilance qu'on est en capacité de pouvoir anticiper, je le dis encore une fois. Donc c'est vraiment cette fois-ci, nous surveillons les cours d'eau, nous surveillons les routes. Donc nous demandons vraiment la plus grande prudence, nous demandons à toute la population de se tenir informée sur les réseaux sociaux. Nous publions en lien avec les communes des communiqués réguliers de ne pas prendre la voiture, de reporter les déplacements qui ne sont pas indispensables, de ne pas sortir, évidemment de se soucier de ces personnes des personnes les plus proches et de vérifier qu'ils sont correctement à l'abri. Et c'est surtout de ne pas s'engager en voiture ou à pied dans les sous-sols, de pouvoir se réfugier, de s'éloigner des cours d'eau. Voilà, ce sont des mesures de bon sens, mais que nous sommes en capacité de diffuser, que nous diffusons depuis ce matin en lien avec les collectivités. Je voulais également remercier évidemment tous les services de secours et les pompiers qui sont en alerte maximum et qui nous aident à anticiper au mieux cette situation pour permettre d'éviter les plus grands risques dans l'après-midi.
Merci beaucoup Madame la sous-préfète. Voilà, des consignes, j'allais dire presque de bon sens, qui peuvent sauver des vies. On reste chez soi quand on est dans les Bouches-du-Rhône actuellement. Merci beaucoup Madame la sous-préfète d'avoir choisi Europe Midi pour parler. Le Var à présent, Frédéric Michel en direct du Var. Quelle est la situation dans le Var, Frédéric ?
Identique, le préfet du Var en appelle à la plus grande vigilance. Les parents ont été invités à chercher leurs enfants à la mi-journée. Toutes les écoles seront fermées cet après-midi dans le Var et les Alpes-Maritimes, du premier degré aux établissements d'enseignement supérieur. Les crèches également, vous l'avez entendu, il ne faut pas sortir entre 13h et 19h, pas utiliser son véhicule, encore moins descendre en sous-sol. Dans l'ouest varois ce matin, il a déjà beaucoup plu, 120 mm d'eau tombée à Brignoles et on attend autant de précipitations cet après-midi. Les cours d'eau se remplissent, le risque c'est qu'ils sortent de leur lit. Il faut donc se tenir à distance, mais aussi à distance des arbres, car l'activité orageuse sera très importante avec de nombreux impacts de foudre.
Merci beaucoup Frédéric. Anissa Haddadi, spécialiste météo à Europe 1. Déjà, comment en est-on arrivé là, Anissa ?
Alors, ce qui se passe, c'est que depuis trois jours, Romain, nous avons une perturbation qui traverse le pays d'ouest en est. Souvenez-vous, samedi, c'était le département des Pays de la Loire qui était placé en vigilance rouge pour pluie et inondation. Alors, cette perturbation très active, elle avance. Cet après-midi, c'est tout l'est du pays qui est concerné. Donc on a aussi de la pluie, il ne faut pas l'oublier, de l'Alsace jusqu'aux Alpes. On a des précipitations aussi assez fortes cet après-midi sur l'Isère. Mais au bord de la Méditerranée, ce qui se passe, c'est que nous avons une dégradation très forte entre les Baléares et la Sardaigne. Cette dégradation très forte, elle envoie des flux d'air très instables. Et du coup, au cœur de ce mouvement, nous avons les communes de Marseille, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse. Et donc là, nous avons une situation assez dangereuse avec des cumuls d'eau très importants. Ça éclate à cet endroit-là avec des orages très forts.
Anissa, qu'est-ce que vous prévoyez ces prochaines heures ?
Alors, je viens de raccrocher, vous le disiez Romain, avec les équipes de Météo France. Ça se réactive là actuellement, aux minutes où on se parle. Il recommence à pleuvoir sur Marseille et sa région. On a eu une petite accalmie ce matin. Alors, ce qui va se passer cet après-midi, c'est assez simple. Des pluies fortes, des cumuls encore importants qui vont se rajouter à ceux de ces dernières heures. Des orages forts, de la grêle et surtout, on n'en parle pas beaucoup, mais ce qui risque d'être le plus important, ce sont les rafales de vent très très forts.
Merci beaucoup Anissa et on vous retrouve évidemment à la fin d'Europe Midi pour un point météo complet. Merci Anissa. C'est une enquête qui dure depuis 17 ans. L'enquête sur le naufrage du Bugalet-Braise en 2004 au large du Cap Lizard, c'est dans la Manche. Tout laisse à penser qu'il s'agissait d'un sous-marin qui a accroché le chalut et tiré le chalutier par le fond, faisant 5 morts. Un sous-marin britannique. Sandrine Prioul, vous avez rencontré les avocats des familles. Et pour la première fois, la justice britannique va arrêter de nier ce qui semble être l'évidence.
Et cette fois, c'est peut-être la bonne. Pour la première fois, la justice britannique va tout reprendre. Les familles veulent montrer la responsabilité du sous-marin de la Royal Navy. Maître Dominique Tricot représente le fils d'un marin disparu dont la première victoire a été d'obtenir cette procédure inédite.
C'est un Breton, c'est un marin, c'est une tête dure. Il n'a pas une seule seconde abandonné. Il considère qu'il doit à son père de déterminer la vérité de sa mort et il ira jusqu'au bout. Et je regrette que c'est finalement la justice anglaise qui se décide à consacrer à cette affaire l'importance qu'elle mérite.
Auditionner même les membres de la Royal Navy, éplucher ses rapports classés secret défense, Anis Arabi se réjouit que même les avocats britanniques les soutiennent.
Ce qui rend cette procédure et cette audience particulière, c'est qu'elle va se tenir pendant 3 semaines, que les preuves vont être débattues contradictoirement, oralement, que les témoins vont être interrogés et que de cette confrontation-là pourra éclore la vérité qui n'a pas pu éclore dans le cadre de l'information judiciaire qui était écrite et qui se passait dans le secret des cabinets des juges d'instruction.
Aujourd'hui, hommage aux victimes. Et si cette procédure n'est pas formellement un procès, c'est une étape très forte franchie dans le combat de ces familles de marins.
Europe Midi, il est 12h40. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, on va parler de cette information qu'on vous révélait ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Emmanuel Macron s'apprête à annoncer la création en France de mini-centrales nucléaires. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mini-centrale nucléaire ? On sera avec un physicien spécialiste de ces questions. Restez bien avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
12h43, l'énergie c'est stratégique, on l'a vu avec l'augmentation du prix du gaz. Et je voulais absolument qu'on revienne dans Europe Midi sur cette information révélée par Europe 1. Emmanuel Macron s'apprête donc à annoncer la création en France de mini-centrales nucléaires, des réacteurs nouvelle génération, plus économiques, plus écologiques. Greg de Temmerman, bonjour, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Vous êtes
bonjour.
Physicien, vous êtes chercheur associé aux mines ParisTech. Expliquez-nous, on a besoin de vos lumières. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par mini-centrale nucléaire ?
Alors, c'est une bonne question. Alors, en France, à l'heure actuelle, on a des centrales nucléaires ou des réacteurs qui font entre 900 MW et 1400 MW, donc des unités assez grosses. L'EPR, qui est en construction à Flamanville, a une puissance de 1650 MW, donc encore quelque chose de plus gros. Ce qu'on appelle les mini-réacteurs ou des SMR, ce qui signifie petits réacteurs modulaires, sont des réacteurs dont la taille pourrait être entre 10 et une centaine de MW, donc qui ont vocation à être beaucoup plus petits, mais beaucoup plus flexible et surtout de pouvoir simplifier la construction, de standardiser un maximum et de diminuer les coûts.
D'accord. Ça fournit l'électricité à combien de foyers ?
Alors, c'est un peu compliqué. Ça dépend de la puissance, comme je viens de le dire, puisque vous pouvez avoir dans la SMR des unités qui vont faire une dizaine de mégawatts, qui vont être utilisées pour des toutes petites villes ou des sites industriels, jusqu'à des unités d'une centaine de mégawatts. En France, on a un concept qui s'appelle New World qui fait 300 mégawatts. Et donc là, vous êtes sur une ville de taille moyenne.
L'avantage avec le nucléaire, c'est que ça ne rejette pas de CO2. Donc ça, ça ne change rien pour le climat. En revanche, on ne sait pas que faire des déchets. On multiplierait les centrales nucléaires. Ça ne peut pas poser un problème de sécurité ?
Alors, en fait, justement, les petits réacteurs sont plus sûrs parce qu'ils génèrent moins de puissance et donc c'est plus facile de mettre en place des systèmes de sûreté, ce qu'on appelle passifs, donc de faire en sorte que la puissance dissipée soit beaucoup plus faible, ce qui limite les risques de problèmes. Après, en termes de puissance, vous allez utiliser la même quantité d'uranium. Donc, c'est-à-dire que pour une puissance donnée, vous allez peut-être avoir plus de réacteurs, mais la quantité d'uranium reste la même. Donc, ça ne change pas grand-chose pour les déchets. Au contraire, il y a certains réacteurs qui permettent même de brûler un petit peu mieux l'uranium que ce qu'on fait à l'heure actuelle.
Ce sont des centrales qui seraient accolées aux centrales actuelles ou ce seraient des centrales mobiles ?
Alors, l'idée souvent des petits réacteurs, c'est qu'ils puissent être installés dans des sites plus ou moins isolés, raccordés à des villes qui ne sont pas très faciles à raccorder à des gros réacteurs. Alors, en France, on peut se poser un petit peu la question d'où on les installerait, puisqu'on a plutôt des grosses capacités de production. Mais on peut imaginer, par exemple, assez facilement remplacer les centrales à charbon dans des pays qui ont installé du charbon il y a 40-50 ans. Les unités font en général 300 à 400 mégawatts, donc on est dans la bonne taille pour remplacer ce genre d'unité.
D'accord. On parle de centrales plus écologiques. En quoi elles sont plus écologiques ?
Alors, exactement, je ne sais pas. Je pense que c'est principalement, elles sont beaucoup plus petites. Elle nécessite moins de matière et je pense que c'est surtout de ce côté-là. Mais après, l'écologie du nucléaire reste la même. C'est quelque chose qui génère très peu de CO2 et qui génère beaucoup de puissance et une puissance de façon disponible, enfin pilotable.
Merci beaucoup Greg de Temmerman. Merci d'avoir nous avoir éclairé voilà, sur ces mini-centrales nucléaires. Emmanuel Macron s'apprête donc à faire des annonces. C'est une information Europe 1 qu'on vous révélait ce matin. Tiens, le Nobel de médecine vient d'être attribué à l'Américain David Julius et à l'Américain d'origine libano-arménienne Ardem Patapoutian pour leur découverte sur, écoutez bien, la façon dont le système nerveux transmet la température et le toucher. Leurs découvertes révolutionnaires ont permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique donne des ordres à nos terminaisons nerveuses pour qu'on les détecte. Voilà, donc ce prix Nobel de médecine qui a été accordé à deux Américains. Cette information politique de Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. L'immigration est un enjeu majeur pour la présidentielle. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur ce matin lors d'une réunion avec les préfets, Gérald Darmanin, qui demande de la fermeté à la suite des révélations d'Europe 1, vous le savez, la semaine dernière, sur la baisse de 50% des visas pour les pays du Maghreb. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a convoqué ce matin donc les préfets avec une consigne, augmenter les expulsions de clandestins en situation irrégulière, auteurs de crimes et délits, et retirer les titres de séjour des immigrés, auteurs de troubles à l'ordre public. Ce sont des consignes donc qui ont été données aux préfets ce matin, information Europe 1. Attention, séisme en vue à l'Église de France. Le rapport de la commission Sauvé, du nom de son président, sera rendu public demain. Un rapport indépendant, commandé par l'Église elle-même, sur les agressions sexuelles commises à l'intérieur même de l'institution catholique. Les catholiques, autant vous le dire, s'attendent à un tsunami. Virginie Riva, bonjour Virginie.
Bonjour.
Comment la commission déjà a-t-elle travaillé ?
Alors, elle a fait un énorme travail d'abord d'écoute des victimes durant plus de 2 ans et demi. Au total, 6500 victimes se sont manifestées à la ligne d'écoute lancée par la commission. Puis la commission en a reçu 250 en audition. Cette commission, vous le disiez, hein, il faut le dire, elle est mandatée par l'Église, donc les évêques et les ordres religieux. Ce sont eux qui ont financé à hauteur de 3 millions, mais elle est totalement indépendante. Jean-Marc Sauvé, son président, ancien vice-président du Conseil d'État, est une figure incontestable et il s'est entouré de 21 experts reconnus, tous bénévoles. Deuxième travail, les archives. Une équipe de plusieurs historiens a enquêté dans les archives centrales de l'Église, à Issy-les-Moulineaux, grâce à un décret dérogatoire du pape François, ainsi que dans un tiers des diocèses et plus de 15 instituts religieux, et ce depuis 1950. Enfin, l'état des lieux quantitatif pour établir le nombre de victimes. L'IFOP a conduit un sondage sur 28 000 personnes, généralisé ensuite par l'INSERM à l'ensemble de la population française, pour connaître la prévalence des violences sexuelles dans l'Église par rapport à celles commises dans d'autres institutions. Donc demain, le document principal, que l'on appelle déjà Rapport Sauvé, livrera son analyse de la gestion de la pédophilie dans l'Église depuis les années 50 et formulera sur la base de cet immense travail plus de 40 préconisations.
Alors Virginie, il y a déjà eu quelques informations qui ont fuité, comme on dit. Qu'est-ce que vous savez de ce qui va être publié demain ?
Alors, plusieurs sources gouvernementales et internes à la Commission m'ont confirmé qu'on serait bien au-delà de 100 000 victimes. La dernière fois que Jean-Marc Sauvé avait fait un rapport d'étape, il parlait alors de 10 000 victimes seulement. On connaît également le nombre de prêtres prédateurs, à minima 3 000, a déjà révélé Jean-Marc Sauvé ce week-end, sur les 115 000 en exercice entre 1950 et 2020. Ça veut dire que c'est un pourcentage d'un peu moins de 3% de prêtres. Enfin, on sait que même si les chiffres de la pédophilie vont être abominables, effrayants, c'est dans la famille que les enfants français ont été les plus abusés, selon l'enquête INSERM, ce qui explique aussi le caractère systémique de cette pédophilie où, comme nous l'expliquait l'un des membres, souvent la famille, l'Église et même parfois l'État ont fait corps pour que l'affaire n'éclate jamais.
Merci beaucoup Virginie. Il est 12h50, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, toutes nos informations sur la semaine d'hommage qui débute pour dire adieu à Bernard Tapie. Le point d'orgue sera jeudi avec la chapelle ardente au Vélodrome. Les informations de Jean-François Pérez. Et puis on reviendra sur l'information par laquelle on a démarré ce journal, à savoir les intempéries et cette alerte rouge dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui est prévu cet après-midi ? Qu'est-ce qui attend les habitants des Bouches-du-Rhône ? On verra ça avec Anissa Haddadi. Restez bien avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h53. Tiens, est-ce que le Stade Vélodrome va être rebaptisé Stade Vélodrome Bernard Tapie ? Toujours est-il, une semaine d'hommage débute pour dire adieu à Bernard Tapie. Le point d'orgue, ça sera jeudi avec la chapelle ardente installée au Stade Vélodrome. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour Romain.
Vous avez des informations sur ce qui est prévu cette semaine et sur ce qui est prévu jeudi. Hein.
Oui, les Marseillais vont pouvoir rendre un hommage direct à celui qu'ils surnommaient le boss. La famille de Bernard Tapie souhaitait qu'il se rende une dernière fois au Stade Vélodrome. Eh bien, ça sera fait. Le cercueil sera installé jeudi dans l'un des salons du stade et ceux qui le désirent donc pourront se recueillir près de lui. Vendredi, à 11h, les obsèques seront célébrées par l'archevêque de Marseille en la cathédrale de la Major, derrière le Vieux-Port. Obsèques suivies de l'inhumation au cimetière de Mazargues. Pour l'anecdote, il est situé au bout de l'avenue qui mène au Stade Vélodrome, donc il sera pas très loin. Avant cela, à Marseille, une fois que les intempéries seront passées, un livre d'or sera mis à disposition du public, là encore au Stade Vélodrome, à côté de son portrait qui a été installé hier. Et puis à Paris, sa ville de naissance et de décès, donc une première messe sera célébrée mercredi à 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés.
Et puis, depuis 1993, on le sait, hein, Bernard Tapie était une icône à Marseille. Et Jean-François, tous les joueurs de l'époque lui rendent hommage.
Oui, hier soir, dans Europe 1 Sport, autour de Lionel Rousseau, nous étions en direct avec plusieurs acteurs majeurs de l'OM des années Tapie. Moment d'échange rare et fort, notamment entre Pascal Olmeta, l'emblématique gardien de but, et Éric Dimeco, le minot de la grande équipe de l'OM, d'habitude consultant sur RMC, mais qui nous a fait l'amitié de venir parler d'un homme qui a changé son destin.
C'est 8 ans de ma vie, donc c'est surtout un homme exceptionnel que je sais que j'ai eu de la chance de côtoyer cet homme-là, qui était extraordinaire, et quand on dit extraordinaire, ça veut dire qu'il sortait de l'ordinaire avec sa face sombre aussi. Moi, je retiens que le bon, et surtout, ces 4 dernières années, quand je le voyais avec ses cheveux blancs, son combat, la dignité dans son combat, cet homme m'a scotché.
C'est très rare que j'entende mon mec avec cette voix-là, avec tous ces sanglots engloutis en lui. C'était un homme vraiment particulier, il a touché à tout et ça, il pouvait être critiqué de tous bords, mais lui, il s'en foutait pas mal. Aujourd'hui, je lui tire mon chapeau à lui et puis j'ai une pensée pour, comme a dit Meco, pour sa femme et ses enfants.
Également avec nous hier soir, le héros de Munich, Basile Boli, celui qui d'une tête légendaire avait offert la Ligue des Champions à l'OM en 93. Là encore, témoignage rare, Boli a très peu parlé depuis hier. Il nous a raconté à quoi tenait une carrière et une légende, tout simplement à un ordre de Bernard Tapie.
Ça faisait 10 jours que je m'entraînais pas et j'avais très mal au genou. Pendant 10 minutes, ça allait quand le match a débuté. Et puis après, je me sentais pas très très bien. Et donc, je demande à sortir. Et Jacques Bailly, qui était kiné à l'époque, me dit carrément, le boss veut pas que tu sortes. Je dis, mais c'est pas possible, il veut me tuer. 2 minutes après, bon, je marque et après, c'est la mi-temps, on est dans les vestiaires et il arrive à côté de moi, il me dit, alors, tu veux sortir maintenant?
Voilà, l'OM l'emportera 1-0 et Boli pourra soulever celle que Bernard Tapie appelait la coupe aux grandes oreilles, la seule du foot français jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, adieu le boss, disent les Marseillais. Merci beaucoup Jean-François. 12h57, le temps.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Alerte rouge dans les Bouches-du-Rhône, Anissa Haddadi. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochaines heures?
Eh bien ça y est, la pluie est revenue sur Marseille. On a eu une accalmie de 2 heures là, en fin de matinée. Hein, tout le monde pensait que c'était terminé. Ça a été un réflexe des Marseillais. D'ailleurs, on l'a vu sur les réseaux sociaux avec des photos de ciel bleu. Malheureusement, on n'en a pas fini. C'est cet après-midi que les cumuls de pluie risquent d'être les plus importants sur Marseille, avec un programme sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse très mouvementé, avec des orages accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent. Alors, il ne va pas pleuvoir que dans le sud-est, hein, Romain. On a une bande pluvieuse qui va de Montpellier jusqu'à Metz, qui va concerner toutes les régions situées entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes. Ailleurs, on a un temps plutôt agréable, partagé entre nuages et éclaircies sur toutes les autres régions du pays.
Merci beaucoup Anissa. 12h58, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1.